pause, on nous a apporté encore une barrique avec de la soupe. Cette soupe, c'était une soupe de rutabaga. Rutabaga, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la betterave de sucre que mangent les animaux pour avoir du lait. Et naturellement, il n'y avait rien dedans parce que les résidus de viande et tout ça, c'était pour les SS. Donc, il flottait comme ça quelques rutabagas dans une soupe fétide, liquide. On avait le droit à une timbale de cette soupe pour le déjeuner de midi. Bon, c'était chaud et ça nous a tenu un petit peu. Il faut vous dire qu'en route, lorsque nous sommes allés, nous avons vu des grands trous dans lesquels nous avons vu des livres de prière, des talitim, c'est-à-dire l'écharpe avec quoi on fait la prière, des sifrei Torah, ça veut dire que les rouleaux de la Torah qui étaient jetés dedans, et des livres de prière, des livres de la Torah, enfin des tefilines que mettent les hommes le matin pour faire les prières. Tout ça, c'était jeté dans ce trou. Et avec ma belle-sœur, nous nous sommes dit, tous les gens à qui appartenaient ces choses sont certainement passées au four crématoire. J'ai voulu prendre un livre de prière pour pouvoir faire un peu la prière. Et ma belle-sœur m'a dit, tu es folle, on va tout de suite te fusiller. Ça ne va pas la tête. Bon, alors j'ai rien pris. Néanmoins, je savais quelques prières par cœur. Mon père, dans le temps, m'enseignait deux fois par semaine, d'abord à la synagogue, et ensuite m'enseignait moi personnellement, et m'a toujours appris quelques prières. Elle m'a dit, apprends quelques prières par cœur. On ne sait jamais si un jour tu as besoin, mais jamais ne fais une prière par cœur si tu peux avoir un livre. Parce que par cœur, on le fait machinalement, et avec un livre, on le fait un peu avec plus de cœur. Et ces mots sont revenus, et ces quelques prières que je savais par cœur, j'ai remercié du fond de mon cœur à mon père qui me les a appris. Donc, on a fait un peu la prière par cœur. Alors, donc, après midi et demi, on a repris le travail jusqu'à 4h30, 5h. Et nous sommes remis en rang et nous sommes rentrés dans le camp après une fouille. Mais allez voir qu'est-ce qu'on peut fouiller après avoir travaillé des pierres avec des pelles et des pioches. Tellement il fallait traîner ces pierres. Et bon, on était fouillés et de nouveau l'appel. Alors là, c'était au gré de la SS. Si par hasard elle s'est disputée avec son mari, c'était long. Si on ne trouvait pas le nombre tout de suite parce que la SS n'avait pas compté, c'était long. Et si par hasard c'était pas tout ça, hein, ça a duré quand même une heure et un quart. Toujours avec la faim dans le ventre. Bon, quand c'était fini cet appel, on a distribué le ravitaillement. Alors le ravitaillement, c'est un poème, une poésie, ce qu'il fallait qu'il nous tienne de toute la journée dans le ventre. C'était deux tranches de pain de cette épaisseur, du pain noir, carré. Ce n'était pas le pain long comme ça qui pouvait faire deux tranches normales, des petits carrés comme des toasts. Une cuillère de café de margarine et une cuillère de café de confiture qui n'était pas de la vraie confiture, c'était l'ersatz. L'ersatz, c'est un semblant de confiture. Ça, c'était pour la journée. Avec ça, on devait tenir jusqu'au lendemain soir. Et un peu de café le matin et cette soupe à midi. C'est avec ça que nous devions travailler. Alors, nous sommes rentrés du travail, il devait être vers 5h, 5h30. On a passé devant le gardien, on nous a fouillés. Fouillés, je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons trimballé des pierres toute la journée avec des pelles et des pioches, donc qu'est-ce qu'on pouvait déjà bien cacher et où cacher? Et on est arrivé au bloc. Devant le bloc, il fallait se mettre en rang pour l'appel. Alors l'appel durait selon l'humeur de la SS, si elle savait bien compter, si elle ne s'est pas trompée dans ses comptes, si par hasard elle s'est trompée qu'il en manquait un, jusqu'à ce qu'on ne le retrouve pas, nous sommes restés debout, après une journée de travail avec la faim au ventre. Si par hasard elle s'était disputée avec son mari ou avec ses proches, elle était de mauvaise humeur, c'était aussi, ça a rallongé le... Nous étions vraiment responsables de tout là-bas. Et ensuite, alors après 7 heures, 1 heure et demie d'appel, ou 2 heures parfois, on recevait la ration de la journée. Alors, la ration de la journée se composait de 2 tranches de pain de cette épaisseur. C'est des tranches carrées, comme des toasts. Une cuillère de margarine et une cuillère de confiture d'ersatz, c'est-à-dire qu'un semblant de confiture, c'était un remplacement de confiture. Et c'était ça, avec ça, il fallait tenir toute la journée jusqu'au lendemain soir. Il faut vous dire aussi que dans ce peu de ravitaillement, dans cette nourriture, il y avait du bromure. Le bromure, c'est un produit chimique, certainement vous devez connaître, qui calme les sens, SENS. Et naturellement, il fallait calmer les sens, surtout chez les hommes et même chez les femmes, pour qu'il n'y ait pas de rébellion. On sentait ce bromure dedans, mais on était encore content d'avoir ce petit ravitaillement. Alors, ces 2 tranches de pain devaient nous faire donc toute une journée. Alors, avec ma belle-sœur, nous nous sommes dit, nous allons manger une tranche et garder l'autre tranche pour le lendemain. La plupart des gens ont mangé les 2 tranches tout de suite. Ce n'était pas difficile parce que, affamés comme nous étions, ces 2 tranches ne remplissaient même pas le quart de notre estomac. Mais comme on avait peur le lendemain de s'évanouir, avec ma belle-sœur, nous avons dit que nous allons le garder. Alors, nous l'avons mis dans ce petit chiffon qui nous gardait la timbale, sous nos têtes. Le lendemain, on n'avait plus de pain. Ça a été volé par nos copains d'à droite, à gauche, devant, derrière, et qui avaient déjà mangé tout leur pain. Alors, le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sur le ventre et nous avons dormi dessus. Et comme ça, nous avons pu garder notre tranche de pain pour le lendemain. Nous étions vraiment plus du tout normal. Nous étions aussi des sauvages déjà. Parce que pour prendre le pain de l'autre, qui avait aussi faim que lui, auquel, il fallait vraiment le faire. Hein. Mais enfin, c'était la vie du camp, c'était le début d'une vie de camp. Après ça, on pouvait rentrer dans le bloc et on pouvait se coucher. Après ça, c'était déjà dans les 7-8 heures. Et comme il fallait se lever très tôt le matin, on avait intérêt à rester couché et puis dormir. Naturellement, qu'on se pouvait s'endormir difficilement, c'était très dur, à même le plancher, c'était très dur. Et puis c'était surtout moralement et physiquement, on était archi crevés. On n'avait pas de conversation, on n'avait même pas la force de converser, de parler. Et sur quoi on aurait pu parler? Entre-temps, ces capots avaient un traitement un peu plus élaboré, étant donné qu'elles avaient des responsabilités, elles avaient des pommes de terre qu'elles faisaient crier dans un petit réchaud, un petit four, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec du charbon, qu'elles pouvaient se faire cuire des pommes de terre. Bon, on avait au moins l'odeur. Mais on n'avait même pas l'épluchure parce qu'elles mangeaient l'épluchure aussi, étant donné qu'elles n'avaient pas non plus tellement à manger. Et chez ces capots, elles avaient des petites jeunes filles qui faisaient le travail dur pour elles, nettoyer. Et parmi ces jeunes filles, j'ai rencontré justement dans ce bloc une petite jeune fille de 14-15 ans qui s'appelait Myriam. Elle était de Lyon et elle s'appelait Myriam Oppenheimer. Et elle était justement, si on peut appeler, la bonne d'une des capots. Donc, elle avait aussi peut-être un peu les épluchures de pommes de terre. Elle avait quelque chose un peu plus. Et elle m'a raconté, elle venait d'une famille très orthodoxe. Elle était déportée avec son père. Et elle était jeune Et bon, j'ai parlé un petit peu avec elle. Je connaissais vaguement une famille comme ça, c'était une famille très célèbre de Lyon. Et nous avons comme ça, nous sommes endormis, et de nouveau à 4h, 5h du matin, c'était l'appel. Et de nouveau la routine, tout ce que vous avez entendu, le café tiède, donc vous commencez un petit peu à s'habituer. Et on est sorti travailler, et nous sommes revenus. Et c'était comme ça pendant plusieurs semaines. Et au bout de 15 jours, moi j'ai dit à ma belle-sœur, d'abord, on ne peut pas rester comme ça sans se laver, ça ne marche pas. On prenait bien des glaces de par terre, des glaçons, un peu de neige. Et je lui dis, tu sais, au bloc, dans 3-4 blocs à côté, il y a ces Ariennes, c'était des filles de rue, des criminelles, des résistantes, qui n'étaient pas juives, et qui avaient un bloc, 4 blocs de nous, et qui avaient une rampe d'eau dans la cour. Ben vous me direz que dans la cour, se laver le matin, en plein hiver, mais c'était quand même de l'eau. Et elles avaient droit à avoir des paquets de dehors, tout sauf du pain. J'ai dit, écoute, il faut qu'on aille se laver, ça va pas, on ne va pas rester comme ça sans se laver. Alors d'autant plus qu'il y avait des sélections chaque semaine, déshabillés à mi-corps pour voir s'il n'y avait pas des boutons. Et ceux qui avaient des boutons étaient tout de suite éliminés au fond du crématoire, et ceux qui n'en avaient pas pouvaient rester. Et comment ne pas avoir de boutons quand on ne se lave pas? Mais le miracle, c'est que ni ma belle-sœur ni moi n'étions boutonneuses et n'avons pas de boutons, malgré notre manque de soins sanitaires. Nous n'avions pas de boutons, mais il fallait pas pousser le diable par la queue. Et j'ai dit, écoute, on va essayer de se laver. Elle me dit, non, moi j'ai l'air trop juive, je veux pas, je vais être battue, j'ai peur, je veux pas. Alors, avant l'appel, je me suis levée et je me suis mis à l'extrémité, comme j'ai toujours l'habitude de me mettre à l'extrémité de cette rampe. Et j'avais trouvé un petit bout de pierre ponce ou quelque chose comme un savon, un semblant de savon. Et j'avais mon chiffon de ma timbale et je me suis débarbouillée en vitesse. Ça a très bien marché. Je suis revenue. J'étais très fière de moi. Et puis, je me suis sentie un petit peu plus humaine qu'une bête de somme. Et j'ai récidivé comme ça 2, 3 fois. Mais la troisième fois, je n'avais pas la place à l'extérieur. Alors, j'avais la place à côté. Alors, je me dis, tant pis, je vais me laver à côté. Et en me lavant, celle qui était à l'extérieur, une Allemande, elle voit mon demi-triangle. Elle me dit, mais tu es juive, toi? Qu'est-ce que tu fous ici? J'ai pas demandé mon reste, j'ai pris mes clics et mes claques, mon petit chiffon et ma pierre, et je me suis sauvé. Bon, j'ai essayé de voir les autres jours, quand j'avais de la place à l'extérieur, je me suis lavé. Ça, c'était pour l'hygiène. Maintenant, pour la nuit, pour sortir, faire ses besoins, excusez-moi l'expression, il fallait aussi aller à 3-4 blocs, dans la boue, parce que la neige, c'était de la neige un peu fondue. Il n'y a que la glace qui restait un petit peu dessus. Il y avait un petit peu de neige de temps en temps, mais c'était la boue. Et se dépêcher dans la boue, à 4 blocs, lorsqu'on est pressé, c'était pas évident. Et lorsqu'on avait un petit peu qu'on s'est un peu lâché en route, ce qui était tout à fait presque normal, les capots qui étaient de garde, je ne sais pas d'où elles sortaient, c'est incroyable, on ne les a même pas vues. Et elles venaient, elles nous tapaient. Moi, j'ai été une fois, j'avais eu le malheur justement de plus pouvoir me retenir. Il faut vous dire qu'on n'avait pas de sou de linge, on n'avait rien, il faisait très froid. Donc j'ai été tapé une fois, la prochaine fois j'ai fait attention. Je suis sorti 2 heures avant que je pensais avoir besoin pour pas que ça arrive de nouveau. Mais enfin, ce n'était pas le cas de tout le monde. Nous avons été comme ça pendant 3 semaines et puis abasourdis, vraiment complètement hébétés. Une vie d'animal, vraiment d'animal, de travail. Je suis sûr que pour les animaux, on les traitait beaucoup mieux parce qu'ils donnaient du lait. Nous, on donnait notre travail. Mais ils n'en avaient pas tellement besoin parce qu'ils avaient des convois entiers de viande fraîche, si on peut dire, de personnes qui arrivaient. Donc, ce qu'on durait, on endurait, et puis après, ils n'avaient pas besoin. 3 semaines après, j'ai commencé un petit peu à immerger. Et j'ai dit à ma belle-sœur, écoute, ça ne va pas. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Ça ne marche pas. On est des bêtes de somme. Ça ne va pas. Il faut un petit peu nous sortir de là. Elle me dit, sortir de là. Qu'est-ce que tu veux faire, sortir de là? Je dois vous dire que rien que le fait de ne pas manger, de manger ce chose, ne pas cachère, ça m'a tellement turlupiné, parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de voir un tout petit morceau de filet de quelque chose comme la viande qui s'est égaré dans cette soupe, dont je ne me doutais pas l'existence parce que je n'étais pas du tout sur Terre. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un haut le cœur, excusez-moi l'expression, parce que je ne suis pas habituée à manger pas cachère. Alors j'ai dit à ma belle-sœur, dis-moi, tu crois qu'on est obligé de manger cette soupe? Elle me dit, mais tu es folle. C'est la seule chose qu'on a de chaud dans le ventre. Bon, elle m'a fait entendre raison. J'ai fait contre mauvaise fortune, bon cœur, et j'ai continué à manger. J'avais à côté de moi, sur le koya à côté, une grande jeune fille, de Hongrie, qui parlait que l'hongrois, et elle sortait d'une famille très, 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 très traditionnelle, très, très pieuse, et qui jeûnait le lundi et le jeudi. Il y a des familles où on jeûnait ce jour-là, c'est trop long pour vous expliquer pourquoi, mais enfin, le lundi et le jeudi, on lit la Torah, donc le livre de la loi, dans la synagogue, et ces jours-là, il y a des gens qui ne mangent pas. Donc, cette jeune fille m'a dit, moi, le lundi et le jeudi, je ne mange pas. J'ai dit, écoute, ici, c'est tous les jours que tu jeûnes. Tu mets ça de côté, parce que tu ne vas pas tenir le coup. Tu vas manger comme tout le monde, mais tu es folle, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce qu'on m'a dit, moi, pour la soupe, je l'ai redit exactement, et c'est vrai. Elle m'a dit, non, moi, je suis habituée à la maison, je ne fais pas, je ne veux pas. Et la pauvre, au bout de 3 mois, je ne l'ai plus revue. Elle est devenue un squelette. Elle est une belle jeune fille comme ça. D'abord, on a tout de suite maigri nous-mêmes terriblement, au moins de 15-20 kilos, en moins rien de temps. Et elle a vraiment fondu complètement. Elle est devenue ce qu'on appelle là-bas une musulmane. Un musulmane, c'était une musulmane, mais un squelette. Je l'ai perdu de vue et je ne l'ai plus jamais revue. Et alors là, j'ai dit à ma belle-sœur, non, ça ne marche pas. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour nous sortir de cet enfer, pour montrer qu'on est quand même quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, tu sais quoi? Vendredi soir, nous allons allumer une bougie de Shabbat. J'ai dit, tu es folle? Une bougie? Mais où est-ce que tu as une bougie? J'ai dit, bien, je vais sacrifier une tranche de pain et on va acheter des bougies. Parce que ces Allemandes là-bas, elles ont tout sauf du pain. Et on va pouvoir acheter une bougie pour du pain. Non, mais tu te rends compte, du pain? Mais c'est notre survie, le pain. Et sans pain, qu'est-ce qu'on va faire? J'écoute, moi, je ne veux pas que tu le fasses. Moi, je sens que moralement, ça va me faire tellement de bien que physiquement, ça va aller beaucoup mieux. Parce que quand le moral va, le physique, ça marche. Mieux. Ah non, si tu fais quelque chose, on le fait ensemble. On fait tout ensemble. Il faut vous dire que c'est vrai que le fait que nous étions deux, c'était pour nous quand même plus facile. Parce que les jours où j'étais découragée, elle m'encourageait, et vice-versa. Et à deux, c'est pas la même chose. Je voulais la convaincre, mais en vérité, je voulais pas qu'elle fasse également le sacrifice, parce que si elle sortait aussi d'une maison très pieuse, mais effectivement, on avait tellement faim que c'était vraiment un sacrifice énorme qu'on faisait avec ça. Mais moi, je sentais que pour le moral, il fallait le faire, parce que vraiment, nous étions avilis. Alors, nous avons décidé, ma belle-sœur et moi, d'échanger notre tranche de pain pour une bougie. Et donc, il fallait aller faire ça chez les Allemandes, qui, elles recevaient tout, sauf du pain. Et ma belle-sœur, au début, était réticente, mais enfin, vraiment, elle a vu que peut-être, effectivement, pour le moral, ça serait très bon. Et que ça va nous sortir de cette boue, de cette fange dans laquelle nous vivions. Et ça va nous élever un petit peu au-dessus. Et quand il y a un moral, le physique va avec. Alors nous avons décidé que nous allons le faire. Alors je suis donc allé dans le bloc des Allemandes. Et d'abord, on faisait du troc. Enfin, les gens qui pouvaient se permettre de faire du troc avec quelque chose faisaient du troc chez ces Allemandes. Alors je suis allé, je lui ai dit, écoute, heureusement que je parlais l'allemand. J'ai appris ça à l'école encore, et je me suis perfectionné là-bas, à Auschwitz, enfin à Birkenau, et je lui ai dit, écoute, je voudrais avoir une bougie. Et je ne lui ai pas dit pourquoi, parce qu'elles étaient antisémites, c'est sûr. Je voudrais avoir une bougie pour une tranche de pain. Elle me dit, non, il me faut 2 tranches. Alors j'ai dit, 2 tranches, tu ne recevras jamais. Si tu ne veux pas, je vais chez ta collègue à côté. Alors, je suis allée à côté et elle me répond aussi deux tranches. Je dis, bon, alors je vais chez la troisième. Et puis cette deuxième a quand même réfléchi. Elle n'avait pas de pain. Elle me dit, bon, alors ça va, je te donne pour une tranche de pain, mais je te donne une seule bougie. J'ai dit, donne-moi une bougie, je n'ai pas besoin de deux bougies. Une bougie. Donc, je lui ai donné ma tranche de pain que je regardais disparaître avec gros sur le cœur. Mais je me dis, j'ai une bougie. Et je prenais cette bougie, je l'ai serrée vraiment de toutes mes forces. Et je me suis dit, c'est de là que je vais essayer de puiser ma force. Je suis donc revenue chez ma belle-sœur au camp. Et c'était donc le soir après le travail. Donc on avait encore le temps. Et c'était jeudi. Et chez nous, cette bougie représente un symbole de sainteté. Nous allumons des bougies à chaque entrée des fêtes. D'abord parce que c'est une illumination, c'est la joie qui rentre dans la maison. Et on dit chez nous que le vendredi soir, les bougies, c'est surtout pour le mari. Pourquoi ? D'abord pour les enfants, pour qu'ils voient que c'est un jour de fête, c'est pas un jour normal. C'est un jour hors d'un normal. Ensuite, comme ça, le mari, dans le temps, il n'y avait pas d'électricité tellement, il y avait des bougies. Et lorsqu'on a allumé beaucoup de bougies, ça c'est une chose qu'on raconte comme ça, un machal, c'est une histoire. Simplement que le mari, quand il voit ce qu'il mange, il est beaucoup plus heureux et mange moins. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'effectivement, les gens non-voyants mangent beaucoup plus puisqu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Et c'est vraiment vrai. Donc, c'est aussi une raison. Et c'est une raison de sainteté. On loue Dieu avec ses bougies. C'est très joli. C'est des flammes qui vacillent. Et ça rappelle tellement la maison et tellement un jour hors du commun. Donc, cette bougie représentait pour nous quelque chose de formidable. C'était vraiment quelque chose... Nous étions à l'extérieur. Nous n'étions pas au camp. Et c'était jeudi soir. Donc, j'ai vraiment caché cette bougie sur mon ventre avec cette malheureuse tranche de pain que nous nous sommes partagés avec ma belle-sœur le lendemain. Donc, on avait une demi-tranche chacune à la place de la tranche. Et on est parti travailler. Je peux vous dire sincèrement, je ne vous mens pas, je l'ai encore aujourd'hui devant mes yeux, dans ma tête. On n'a absolument pas senti la faim comme les autres jours. Mais vraiment pas senti. Rien que de voir, savoir que cette bougie que nous allons allumer, que nous avons coupée en deux pour que ça fasse deux bougies, parce qu'il faut allumer au moins deux bougies, et que ça nous réchauffait l'estomac, ça nous réchauffait le moral, et cette soupe, on l'a dégustée à midi, là-bas au travail, avec tout à fait une autre impression, et on a travaillé autrement avec l'espoir qu'on va rentrer et on va allumer ces bougies. Et je vous dis, j'ai encore des frissons dans mon corps aujourd'hui, je vous donne ma parole. Et bon, nous avons travaillé et à 5h30 on est rentré en chantant, mais on a chanté tout à fait autrement que les autres jours, avec beaucoup de gaieté de cœur en pensant à cette bougie. Moralement, ça nous a terriblement fortifié. Nous sommes rentrés, nous avons eu l'appel. Et sublime, l'appel a duré une demi-heure, à la place de durer une heure, ce vendredi. Donc nous avons pu allumer encore nos bougies, il faisait encore clair. Vous me direz qu'on a travaillé Shabbat, on n'a pas le droit, mais on ne pouvait pas faire autrement. Mais au moins cette bougie, on a coupé en deux, on est monté dans notre koya, et on a allumé cette bougie. Les capots nous ont laissé allumer cette bougie sur leurs poils, ces petits poils qu'elles avaient. Ça, c'était encore une très grande gentillesse de leur part. Elles étaient même étonnées que nous ayons cette bougie. Lorsqu'on leur a raconté, ce sont des jeunes filles qui venaient de familles très, très, très pieuses également. Bon, elles ont eu un épanchement de cœur, un ramollissement de cœur, et nous ont laissé allumer. Nous sommes montés sur cette koya, et nous avons allumé ces deux bougies. Alors là, je peux vous dire que nous avons commencé à pleurer à chaudes larmes pendant une demi-heure. On a revu la table dressée à la maison, avec la nappe blanche, avec tous les mets succulents. Je vous en passe, c'est des meilleurs que tout le monde connaît, ou que tout le monde ne connaît pas. La soupe, le bouillon, la viande, la ratatouille, le cholent, enfin les haricots, tout ce que vous avez de bon. Et ça, on voyait devant nos yeux avec ces bougies, à travers nos larmes. Et moi, spécialement, mon père chantait très joliment, et j'entendais les chants de mon père au moment où nous mangeions. à part ça, quand on mangeait, on avait toujours un petit peu de chansons pour louer Dieu. Et je voyais ma mère en train d'allumer ses bougies. Et pour moi, ça a été sublime. Et ma belle-sœur également. Alors, après que nous ayons bien pleuré pendant une bonne demi-heure, nous avons commencé à faire nos prières sur ces bougies. Plusieurs femmes sont venues à côté de nous. Les unes ne comprenant pas ce que c'est, et les autres comprenant, qui ont fait également une prière. Et les autres, celles qui ne comprenaient pas, nous disent « Comment vous avez acheté des bougies pour lire ?» Je dis « Lire, tu veux rire, mais lire quoi ?» Et on leur a expliqué qu'est-ce que c'était. Et elles ont compris, et elles ont dit « Ah oui, ma grand-mère, c'est vrai, ma grand-mère allumait dans le temps, tout ça. » Alors là, vraiment, nous étions au summum de notre morale. Et nous avons mangé notre petite quantité de ravitaillement que nous avions, mais nous n'avions pas faim. Nous n'avions tout simplement pas faim. Et ça nous a tellement réchauffé le cœur, tellement réchauffé le moral, de voir, de revivre un peu en dehors, que nous ne sentions pas notre faim. Et les bougies se sont éteintes. Et nous nous sommes endormis avec le cœur plein de belles choses. Après cette soirée, la première soirée inoubliable que nous avons eue avec ces bougies que nous avons allumées vendredi soir, ces bougies que vous voyez ici, en reproduction, sauf que le bougeoir n'était pas aussi joli. Après cette soirée, nous nous sommes endormis, heureux, paisibles, et en rêvant de très belles choses. Mais malheureusement, le lendemain matin, à 4h du matin, 4-5h, c'était l'appel, et de nouveau, c'était le travail, la routine, le bagne, comme tous les jours. Mais nous avions tout de même dans le cœur tout le souvenir de la soirée. Et nous nous sommes promis, avec ma belle-sœur, de recommencer dès que nous pourrons. Il s'est passé une semaine, deux semaines, on a refait encore une fois la transaction. On n'a pas fait toutes les semaines, mais on en a fait quand même plusieurs fois. À un moment donné, c'était déjà vers le cinquième mois, j'ai senti que j'étais enceinte. Je ne savais pas du tout, étant donné que j'étais mariée depuis 3 mois, et dans le temps, on n'affranchissait pas les jeunes filles comme on l'affranchit aujourd'hui. Je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Et là-bas, au cinquième mois, j'ai senti bouger quelque chose. Donc, j'ai compris que j'étais enceinte. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Sur le coup, j'ai été abasourdie, j'ai été étonnée. Comment est-ce que c'est arrivé? Enfin, je ne demande pas comment c'est arrivé, mais pourquoi et comment et qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je me suis remise sur pied, et puis je me suis dit, bon, ben, c'est un fait, il faut que j'assume, et puis je vais essayer d'oublier, mais surtout, il faut que je cache mon état. Ça, c'est très important. Parce qu'il y avait un docteur dans le camp, un soi-disant docteur en SS qui s'appelait Mengele, qui, lui, faisait rechercher les femmes enceintes par un officier, un autre docteur. Il faisait espionner pour voir s'il y avait des femmes enceintes, parce que lui voulait les accoucher. Il voulait se faire la main, donc il les accouchait avec tous les appareils modernes qu'il avait sous la main, et avec de l'alcool, enfin tout ce qu'il fallait. Et lorsqu'il les avait accouchées, automatiquement il envoyait la femme et la mère au four crématoire. Mais lui, il s'est fait la main. Enfin, c'était affreux, c'était odieux. Je ne savais pas du tout ça encore. Je l'ai su seulement après, par la suite. Donc moi, automatiquement, machinalement, par l'inspiration divine toujours, j'ai essayé de cacher mon état. Et comment cacher mon état? D'un côté, j'avais la chance que le bromure, nous n'avions pas les règles à cause de ça. Je pense que d'abord avec la famine, nous n'avions pas assez à manger. Je crois que les règles, à ce moment-là, s'arrêtent. Il me semble, d'après ce que j'ai entendu des docteurs, et je crois que le bromure y fait aussi beaucoup. Donc tout le monde avait un petit peu le ventre gonflé. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour cacher mon état? Il y avait des capots tchécoslovaques qui avaient là-bas des tabliers brodés à plis. Alors, vous ne savez pas, mais qui dit plis dit cacher son état, parce que les robes de grossesse ont peut-être des petits plis. Alors donc, j'ai dû acheter un tablier. Mais pour acheter ce tablier, il m'a fallu plusieurs jours pour vendre mon pain. Plusieurs jours rester sans pain. Je n'ai pas voulu que ma belle-sœur participe, mais elle a beaucoup insisté. Je lui en suis vraiment reconnaissante encore aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas là pour l'entendre. Mais alors, nous avons acheté, pour plusieurs tranches de pain, nous avons acheté ce tablier. Et ce tablier m'a permis de cacher un peu mon état. Donc, je suis allée travailler normalement, comme tout le monde. D'abord, nous avons fait les routes, comme je vous ai dit. Ensuite, nous avons été dans un autre commando où il fallait, dans un bloc à l'intérieur, donc on avait déjà plus froid, il fallait défaire toutes les parties d'une chaussure. Boucle, cuir, semelle, lacets, tout, absolument tout, parce qu'il récupérait absolument tout. C'était un travail très sale, mais on était à l'abri et on était assise. C'était très beaucoup plus agréable que de travailler sur les routes. Alors, nous avons travaillé là-bas pendant quelques temps. Et entre-temps, il y a eu des déportés dans notre camp qui étaient complètement à bout, qui n'en pouvaient plus. Et je sais que, enfin, je ne les ai pas vus, mais je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont essayé de se jeter sur les fils électrifiés et qui sont restés là-bas et qui sont morts, surtout des messieurs. J'ai entendu par l'entremise de quelqu'un que des messieurs ont fait ça. Vraiment, c'était pas difficile de vouloir mettre fin à ces jours là-bas. Ça, je peux vous dire. Il fallait vraiment tenir vraiment le bout bien bien, et il fallait surtout croire à quelque chose. Et moi, j'ai toujours pensé que mes parents étaient dehors. J'ai toujours espéré et j'ai toujours pensé à eux et j'étais sûre qu'ils font la prière pour moi. Et c'est toujours dans cette idée que j'avais toujours la foi. Et que toujours je me suis dit, c'est pas possible, Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. J'avais comme ça une petite flamme qui était dans mon cœur et qui m'a aidé beaucoup à supporter ces jours pénibles. Je ne veux pas vous dire que pendant toute une année, j'avais tous les jours cette flamme. Ce n'est pas vrai du tout. J'avais des jours de découragement où je me suis dit, ce serait mieux d'en finir. Mais là, quand j'ai attendu le bébé, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui m'annonce quelque chose. C'est pas possible que dans ce camp, que j'ai un bébé, et qu'est-ce que ça va se passer avec ce bébé? Je savais l'avenir de ce bébé. Mais enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, il va avoir quelque chose, il va avoir un sauvetage. Entre-temps, on entendait un petit peu des bombardements au loin, et on espérait qu'on allait venir nous bombarder. Nous aurions été prêtes à mourir sous les bombardements, ça 100%. C'eût été beaucoup plus facile et plus sympathique que de vivre comme nous avons vécu. Bon, enfin, les bombardements, on les a entendus de loin, mais ils ne sont pas tellement rapprochés. Il s'est passé 6 mois depuis, et on nous a demandé de sortir du camp, de se mettre un appel tout à fait spécial, et on va avoir une sélection. J'ai omis de vous dire que les sélections chaque semaine, ça, je vous en ai parlé, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait une sélection chaque mois. Et la sélection mensuelle, c'était complètement déshabillé, et il fallait passer devant un SS, et sans rien, avec les mains vides, pour voir si on était en ordre, si on n'était pas trop squelettique. Et là, moi, j'avais ces photos qui me tenaient encore chaud au cœur, en même temps que les bougies. Et j'ai demandé à une capo qui était dans mon bloc, une tchécoslovaque, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me garder ces 3 photos, parce que je dois passer la sélection. Si je ne reviens pas, tu les gardes. Si je reviens, sois gentil, rends-les-moi. Oui, oui, sans problème. Elle parlait hongrois, et moi je parle hongrois, donc je pensais qu'il y avait une entente un petit peu plus forte entre nous. Je suis donc passé à la sélection en tremblant, je dois vous dire, comme toujours, avec ma belle-sœur et toutes les autres. Nous ne sommes revenus que la moitié du bloc, malheureusement. Et je suis revenu, et dans ma joie, si on peut dire, d'être revenu vivante de là-bas, j'avais omis ces photos, je n'y ai pas pensé. Et 2-3 jours après, je me suis rappelé, oh, mais moi j'ai mes photos encore, c'est formidable. Et je ne retrouve plus ma capo. Et cette capo, aussi on les a changés souvent de bloc, pour qu'elle ne s'habitue pas aux détenus. C'était un raffinement criminel d'une telle intensité qu'ils avaient, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était quelque chose de vraiment, vraiment raffiné. Tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous terroriser, tout, ils le faisaient. Et je l'ai recherché, je l'ai trouvé à un bloc. Je vais toute joyeuse, j'ai dit, dis-moi, tu as mes photos? Elle me dit, mes photos? Quelles photos? Je dis, mais je t'ai donné des photos que je t'aime beaucoup, c'est ma famille, c'est tout ce que j'ai ici, j'ai rien d'autre. Tu m'as jamais donné de photos. Et puis d'ailleurs, je vais te dire, si tu m'avais donné, je les aurais déchirées. Et j'ai jamais plus. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas la taper. Et je ne pouvais rien faire du tout. Elle était supérieure et j'en menais pas large. J'ai dit, bon, j'ai pas mes photos. Je me suis dit, Dieu me vengera. Tu vas voir. Bon, et puis j'avais plus mes photos, j'étais très triste. Qu'est-ce que je pouvais faire? Enfin, j'avais d'autres chats fouettés, étant donné que je me sentais enceinte. Donc, ma belle-sœur était dans tous ses états. Et moi, j'ai essayé de faire surface. Et c'est toujours en gardant un petit peu le moral que je suis arrivée à monter. Et je crois que dans la vie, c'est toujours qu'il faut regarder en bas. Il faut regarder les plus malheureux, il faut regarder qu'on pouvait être encore plus malheureux. Et se consoler avec le malheur des autres, ça c'est un dicton, c'est malheureusement comme ça. C'est pas qu'on veut le malheur des autres, mais quand vous voyez des gens plus malheureux que vous, vous êtes consolé. J'ai vu des gens affamés, vous savez, j'ai vu que l'argent, vraiment, c'était strictement rien. Parce que j'ai vu à côté de moi des multimillionnaires, comme chez Léviton, je sais pas si vous connaissez les meubles, et des gens très très riches, qui sont partis au bout de 3 semaines. Parce qu'elles ont été choyées à la maison. Elles avaient tout ce qu'il fallait. Elles n'ont jamais été habituées à la misère. Elles n'ont jamais été habituées aux restrictions. Elles sont venues là-bas, elles sont tombées comme des mouches, les pauvres. Chez nous, ce n'était pas tout à fait comme ça. Nous, nous étions élevés d'une façon très stricte, avec beaucoup d'amour, mais assez sévèrement. On avait ce qu'il fallait. On n'était pas gâtés comme aujourd'hui sont gâtés les enfants. On était gâtés un petit peu. Mais on savait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas avoir et des choses qu'on pouvait avoir. Donc, on nous a élevés d'une façon rationnelle, strictement, avec le besoin qu'on avait besoin. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je ne me suis pas trouvée esselée. Et je me suis dit, bon, mais je suis ici, il faut faire face. Et puis, Dieu va nous aider, et etc., etc. Et c'est ça qui nous a aidé à tenir. Parce que c'est très important, l'éducation qu'on reçoit à la maison. Enfin, ça, c'est un aléa. Donc, j'étais enceinte de 6 mois et on nous a prévenu qu'on va expédier une partie des déportés à Auschwitz, qui était à 10 minutes de Birkenau. En fait, Auschwitz, pour nous, c'était le paradis. Alors, je pense que mon lavage de cerveau, il ne fallait pas faire mieux. En quoi était-ce le paradis? À Auschwitz, on avait des paillasses sur les lits, sur les koyas. C'était déjà moins dur. Et on avait une rampe d'eau dans le bloc. Ça, c'était quelque chose de merveilleux. Bon, et on n'avait pas le four crématoire. Pour ça, de toute façon, à 10 minutes près de Birkenau, c'était pas loin de nous envoyer. Mais là-bas, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que là-bas, il était censé venir la Croix-Rouge. Or, de la Croix-Rouge, on a vu juste une petite Croix-Rouge au bout de l'allée d'Auschwitz. Ils sont venus à deux. Les SS lui ont présenté un déporté joliment habillé qui a répondu à toutes leurs questions après avoir été préparé. Une fois qu'ils ont entendu toutes ces questions, on a amené ces personnes boire, manger, faire la fête et ils sont partis. Ça, c'était la Croix-Rouge. Mais pour montrer qu'il y avait un petit peu de soins, de propreté, on avait cette rampe d'eau et on avait les paillasses. Pour la nourriture, c'est exactement pareil. Et pour le travail, c'était au petit bonheur la chance, comme à Birkenau. Mais pour aller dans ce paradis, il fallait passer à travers un SS, un docteur SS complètement déshabillé. Or, à 6 mois, j'étais déjà assez forte. Et c'était le soir de Yom Kippour. Vous dire comment on savait les dates, je ne peux pas vous le dire. Je sais que ça s'est infiltré par les messieurs qui avaient des calendriers. Je crois que dans les blocs des hommes, il y avait beaucoup de messieurs qui avaient encore des livres de prière, qui avaient des calendriers et qui pouvaient un petit peu se bouger, savoir. Et on savait que c'était Rosh Hashanah, Nouvel An, Et on savait que c'était Kippour, le jour de jeûne. Bon, le nouvel an, on ne pouvait rien faire, mais le soir de Kippour, c'était le passage. Allez savoir pourquoi c'était juste le soir de Kippour. En tout cas, moi, ma belle-sœur et moi, nous avons jeûné, de toute façon, parce qu'entre jeûner un peu et jeûner beaucoup, il n'y avait pas grand-chose. Et on a fait des prières. Et on nous a mis dans un bloc, quand on est déshabillé, mais heureusement que c'est un bloc chauffé. Et il fallait attendre le SS pour pouvoir passer dans ce paradis, qui est Auschwitz. Alors on a attendu. Il est arrivé un SS, un gros bonhomme, jovial, comme ça, bien en chair. Ils sont beaucoup plus sympas que les autres. D'abord, ils ont meilleure humeur. On était déjà contents qu'il était gros, c'était pas un maigre. Et il s'est mis dans son petit cagibi là-bas, et il a fait passer les gens l'un après l'autre, complètement déshabillés. Toi tu vas pas, ceux qui sont en pas, c'était tout de suite le four crématoire, pas d'excuse. Et ma belle-sœur avait très très peur. Moi j'étais tellement impliquée dans mes prières, j'avais comme ça la voix de mon père, qui chantait tellement bien, qui était tellement joliment, et qui a une très belle prière, qui s'appelle le Kol Nidre, et qui est le début de la prière de ce jour de jeûne. Et on demande à Dieu là-dedans de nous libérer, de nous sauver. Et j'avais cette voix dans mes oreilles. Et je murmurais cette prière que je connais un petit peu par cœur. Et j'avais ça dans ma tête. Donc j'avais pas du tout l'idée d'avoir peur, qu'est-ce qui va se passer. C'est surtout ma belle-sœur qui avait peur, mais elle n'osait pas me le dire. Elle me dit, tu passeras avant moi. D'accord. J'ai dit, passer quoi? Ah oui, passer là-bas, oui, d'accord. Mais j'étais toujours avec ces chants. Et bon, on était dans les derniers. Et c'était aussi un signe de Dieu, parce que les derniers, le SS, il en avait vraiment déjà assez. Hein. Il y en avait des centaines qui ont passé. Alors, bon, c'était mon tour. Je viens, je passe. Il me regarde, il me dit, mais dis-moi, tu es enceinte, toi? Je dis, moi? Pas du tout. Elle me dit, mais enfin, regarde le ventre que tu as. J'ai dit, mais moi j'ai du ventre. Mais j'ai dit, regarde la dame qui est devant moi. Elle a aussi du ventre. J'ai dit, vous savez pas qu'on met du bromure dans notre alimentation? Elle dit, oui, mais c'est pas pour ça que tu as un gros ventre comme ça. J'ai dit, non, mais moi je digère pas ça. Et justement, j'ai gonflé un petit peu plus que d'habitude. Elle me dit, mais est-ce que tu es bête? Si tu es enceinte, tu sais, on te donne du pain blanc. Avec la confiture. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu vas voir la belle vie ici. Tu ne peux pas t'imaginer la vie que tu vas avoir. Tu es enceinte, hein? Ah, je dis non, malheureusement, je ne suis pas du tout enceinte. Si j'avais su, je me serais débrouillée. Il me regarde. Et puis il en avait vraiment assez, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui ont passé. Il était déjà très tard. Il me regarde et me dit, tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Bon, alors, si tu me dis que tu n'es pas enceinte, passe. C'est comme ça que je suis passée. Maintenant, j'avais peur pour ma belle-sœur, parce qu'elle n'était pas tellement jeune. Et ma belle-sœur, lui, il a à peine regardé ma belle-sœur, il a regardé juste qu'elle n'avait pas de bouton, et il lui a dit, bon, passe aussi. Et c'est comme ça que le miracle s'est produit, le Yom Kippour. C'est un miracle parce qu'on a jeûné, probablement, plus que d'habitude. Et ces chants que j'ai entendus mon père, et j'étais très émue, et ça m'a transporté. Pour nous, ce jour de Kippour est très très important. C'est un jour où on jeûne pour se faire pardonner tous les fautes et tous les péchés. Et c'est une journée extraordinairement importante. Et de passer là-bas, alors ça m'a beaucoup touché. Et je suppose que Dieu m'a aidé pour ça. Bon, nous sommes passés et nous sommes, après quelques minutes, nous sommes arrivés à Auschwitz. C'est à peu près 5 minutes de marche. Alors, à Auschwitz, on a été reçus par des Françaises qui savaient qu'on arrive. Et on a été dans un bloc avec des Françaises, donc avec une paillasse. Le vrai paradis, quoi. Sauf qu'on était en camp d'Auschwitz. Et puis, on arrive, et tout de suite, on nous a mis dans un commando, et là, nous sommes arrivés dans un commando pour trier les bagages des gens qui sont arrivés, et des bonnes affaires, des affaires mettables, même neuves. Étant donné qu'en arrivant en Auschwitz, il fallait tout laisser, ces bagages, il fallait les défaire. Et ça, c'était un travail très très bon, parce qu'on pouvait difficilement, avec vraiment beaucoup de prudence, organiser. Ça voulait dire qu'on pouvait mettre de côté une paire de chaussettes, ou une petite culotte, ou un petit caleçon qu'on cachait précieusement, vraiment c'était au péril de notre vie, et que lorsqu'on rentrait dans le camp, on le troquait pour du pain. Alors ça, c'était la survie. Alors on a travaillé là-bas pendant plusieurs mois, et il fallait faire attention qu'on ne soit pas fouillé. Et on a eu comme ça un petit peu de rabiot, comme on dit, un petit peu de manger, de pain, qu'on a partagé un petit peu avec ces amis que nous avions au camp, parmi lesquels une petite Française qui s'appelle Marcel, et qui travaillait dans un commando des produits de guerre, c'est-à-dire elle faisait des billes, des petites bombes, des choses comme ça. C'était une usine, et elle travaillait là-bas, et alors la machine lui avait un jour sectionné l'index gauche. Elle a mis la petite bille dedans pour le couper, et c'est son doigt qui a été coupé ici. Et elle m'a raconté justement que l'infirmière est venue, enfin la SS est venue, et à la place de pleurer devant la SS, elle était tellement fière, elle ne voulait pas montrer. Elle a dit non, ça fait pas mal du tout, j'ai gardé le morceau, peut-être qu'on peut le remettre. Et la SS, m'a-t-elle dit, a été tellement suffoquée de voir une juive comme ça courageuse, elle a pris un petit peu sous sa protection, et elle a dit viens, moi je vais te faire faire un pansement et tu vas rester quelques jours sans travailler et je te dirai au moment où il faudra que tu ailles travailler. Bon, ça c'est sa petite histoire. Et elle est venue, elle me dit, tu sais, je travaille à côté d'un monsieur, parce qu'il travaillait en même temps. C'était des munitions, donc il travaillait avec les messieurs. Et ce monsieur s'appelle Bunchi. Bunchi, c'est un nom hongrois. Et il n'y en a qu'un au monde. C'était un ami d'enfance que nous avions à Paris avec toute la famille. Sa famille et notre famille, nous étions tous amis. Il y avait des sœurs, et moi j'avais mes sœurs, les frères. Et ce garçon était déporté. Et lorsqu'il a su, le lendemain, que c'était moi qui étais au camp, il a su par Marcel, donc par mon ami, son cousin, son oncle travaillait dans les cuisines, et qui dit cuisine, dit un peu plus de ravitaillement, et il nous a envoyé une petite gamelle de soupe chaque soir. Et cette jeune fille, vraiment, nous a amené chaque soir un petit peu de soupe en rabiot. Parfois un petit morceau de pain, très rarement parce que ça c'était presque rare, mais enfin déjà la soupe c'était déjà pas mal et c'était très gentil de sa part. J'ai d'ailleurs repris contact avec cette jeune fille après la guerre. Bon, et on a travaillé comme ça pendant quelques temps, et puis c'est arrivé le mois de décembre, et il faisait déjà commencer à faire froid, et on a recommencé à retravailler sur les routes, parce que le beau travail qu'on avait c'était fini. Et on changeait tout le temps, on nous changeait tout le temps de travail. On a refait les routes. Et moi, je tâchais toujours de passer inaperçu avec mon ventre. Et toujours se tablier sur moi. Il est arrivé le 24 décembre. Le 24 décembre, j'aime vous dire, vous savez quelle fête que c'est. Et j'ai dû rentrer à l'hôpital pour accoucher. Et là-bas, il y avait justement une infirmerie. Ça s'appelle en allemand « Revier ». Par hasard, il y avait une infirmerie là-bas, toujours à cause de la Croix-Rouge. Et dans cette infirmerie, il y avait une doctoresse qui s'appelait Gisela Perle. Donc je ne savais strictement rien. Je suis arrivé chez elle à 6 heures du soir, après l'appel. Je suis venu chez elle et je lui ai dit que je crois que je dois accoucher. Ma belle-sœur est venue avec moi. Et elle me dit, j'ai à peine entrevu sa figure, mais enfin vaguement là, elle avait l'air sympathique, elle parlait français. Elle me dit, t'en fais pas, tu vas voir, tout va bien se passer. Or cette infirmière n'avait strictement rien pour accoucher. Parce que Mengele lui avait dit qu'il faut qu'elle dénonce les femmes enceintes, et elle dit, avec quoi je peux à la rigueur les accoucher? Si tu veux les accoucher et que c'est très urgent, que tu vois que ça vient, avec rien, tu te débrouilles. Et sinon, tu me les envoies. Donc, moi, je ne savais pas tout ça, et j'étais déjà sur le point d'accoucher. Enfin, je pensais, de toute façon. Et j'arrive chez elle, et je commence à faire la prière, et puis ma belle-sœur me tenait la main, et elle me dit toujours, elle est très gentiment, tu vas voir, ça va bien se passer. Et elle me sort, je te dis une chose, je vois que tu es pieuse, si tu n'as pas cet enfant, tu en auras d'autres dehors, je te garantis. Sur le coup, je n'ai pas fait attention à ce qu'elle me dit, parce que je commençais à avoir des douleurs, puis j'étais très émue. Je ne savais pas ce que c'est d'avoir un enfant, et surtout pas là-bas. Et j'étais dépassée par les événements. Je ne sais pas si on appelle ça un point de non-retour, je crois. Enfin, j'étais complètement aussi abasourdie. Et puis je me suis laissée. Je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dois subir, il n'y a rien d'autre. Et j'ai fait la prière. Shema Israël, comme vous le savez. Écoute Israël. Et j'attends, et j'attends. Et j'avais des douleurs intenses. Et ma belle-sœur me tenait la main. Elle me dit, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et ma belle-sœur, c'était le 25 décembre, ma belle-sœur m'a dit, je suis obligée de partir, c'est l'appel. Je ne peux pas faire autrement. Et elle est partie à l'appel. Donc je suis restée seule avec cette infirmière, avec cette gynécologue, pardon. C'était une gynécologue qui était déportée également. Elle a dû avoir la vie sauve parce qu'elle était gynécologue. Et enfin, 5h, 5h30, enfin 6h du matin, difficilement, j'ai accouché d'un enfant, un garçon de 4 kilos. La peine de me demander d'avoir l'émotion, ça vient tout seul. Bon, enfin bref, j'ai accouché d'un enfant de 4 kilos, très très difficilement, j'ai été déchirée, papa, je ne veux pas vous faire de détails, c'est pas tellement ragoûtant. Et puis, j'étais tellement fatiguée, et elle me dit encore une fois, elle me dit, tu vas voir, tu en auras d'autres, fais pas de soucis, même si celui-ci ne vit pas, tu en auras d'autres. Or, l'enfant, quand il est né, il a pleuré. Elle a crié, donc j'ai entendu. Et je me suis endormie. Je me suis assoupie tout de suite après parce que j'étais à bout. Je ne pouvais plus tenir. J'étais à bout et j'ai dormi 1h30. Et je me suis réveillée tout à fait rafraîchie. Et je lui demande, où est mon enfant? Elle m'a dit, ton enfant est mort. Je dis, mon enfant est mort. Mais il criait tout à l'heure. Elle me dit, écoute, j'étais obligée de faire pour qu'il soit mort, parce que sinon, de toute façon, tu passais au four crématoire avec lui. Il n'y a pas d'enfant dans ce camp. Enfin, pas maintenant. Avant, il y en avait peut-être un ou deux, et maintenant, c'est fini. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais même pas le temps de finir ma phrase, qu'une SS est arrivée dans l'infirmerie. Donc, je ne pouvais plus rien dire. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, slow aussi. Alors la doctoresse tout de suite dit, c'est rien du tout, c'est une femme qui a accouché. L'enfant est mort, mais regardez, elle est en bonne vie, elle est en bonne santé, elle peut retravailler. Effectivement, j'étais très rose, par certainement la fièvre que je devais avoir. Elle est toujours avec le visage coloré. Ayant dormi, j'étais un peu plus reposée. Elle me regarde. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Alors, elle lui dit, l'enfant est mort. Elle dit, bon, alors, tu vas la mettre dans du vinaigre et on va faire des expériences sur cet enfant. Et moi, j'ai absolument rien entendu de ce qu'elle a dit. J'étais affolée et puis j'étais en train de me demander, qu'est-ce que je fais ici? Et est-ce que j'ai vraiment accouché? Si je n'avais pas eu mal comme j'ai eu mal, je n'aurais même pas pensé. J'étais abasourdie, j'étais abrutie. Alors, elle me regarde. Oh, elle dit, c'est vrai, elle a des joues roses, elle peut retravailler. Je la laisse en vie. Et elle est partie à l'appel. Et ce que j'avais de la chance, c'est que l'appel, ce jour-là, s'est fait beaucoup plus tard. Parce qu'elle serait rentrée au moment où j'accouchais, au moment de l'appel. Et comme ça, elle savait que je n'étais pas à l'appel, donc on ne m'a pas cherché. C'est toujours le miracle de haut qui est arrivé. Lorsqu'elle est partie, j'ai dit à la doctoresse, mais qu'est-ce que tu as fait avec mon enfant? Elle dit, de toute façon, tu as entendu ce que je ne voulais pas te dire. De toute façon, cet enfant serait parti pour faire des expériences. Et après, au fond crématoire, et toi tout de suite avec. J'ai donc été obligé de lui donner une piqûre dans la tête. C'est pour ton bien. Elle dit, tu vas voir, tu peux avoir d'autres enfants. J'étais très embêtée, d'abord, c'est pas le mot embêtée, mais j'étais très émue. Mais j'étais très embêtée parce que j'avais très mal et il fallait me recoudre. Et il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait rien. Il y avait juste une aiguille et du fil. Donc il n'y avait pas pour m'endormir, et rien pour endormir nulle part. Et alors là, je pense que l'enfer, ça doit être à peu près ça. Bon, j'ai subi, je ne pouvais rien faire, j'ai pleuré. Et puis je me suis rendormi. J'étais à tel point à bout, j'avais déjà pas dormi toute la nuit avant, puisque j'attendais, je sentais. Et alors quand je me suis réveillée, elle me réconforte, elle me dit, j'irai te voir. Alors tu vas aller à l'infirmerie, tu vas voir, tu vas avoir encore plein d'enfants et de petits-enfants après. Moi je te le dis. Et cette femme, je dois vous en parler, cette femme c'est une doctoresse qui vient de Roumanie, qui a fait ses études en Roumanie. Son père était très... Elle vient d'une famille très, très, très pieuse. Son père ne voulait pas qu'elle fasse des études de médecine, parce qu'elle dit, si tu fais des études de médecine, tu vas tout lâcher. Tu ne vas plus manger kasher, tu ne vas plus garder le Shabbat, le samedi. Elle lui a fait promettre, sur la Bible, de jurer qu'elle va toujours manger kasher et qu'elle va toujours rester à garder le Shabbat, le samedi. Donc, elle vient d'une famille très pieuse. Donc, elle m'a tout de suite compris. Elle m'a tout de suite rassurée. J'ai su tout ça par la suite. Je vous raconterai son histoire par la suite, parce que c'est très intéressant. Et donc, elle m'a amenée à l'infirmerie, et je suis restée à l'infirmerie. On m'a donné du pain blanc, c'est vrai, et la confiture aussi, c'est vrai. Et je me suis endormie. Et dans mon rêve, j'ai vu mon père. Je me suis réveillée. J'ai réalisé que mon enfant, on m'a tué mon enfant. C'est là que j'ai réalisé, une fois que je me suis reposé, qu'on m'a tué mon enfant. Alors là, j'ai éclaté en sanglots, j'ai pleuré pendant très longtemps, et je me suis de nouveau assoupi. Et cette fois-ci, mon père, de nouveau, était à côté de moi. Et je ne sais pas pourquoi mon père, alors que j'étais très bien, et avec mon père, avec ma mère. Mais pourquoi c'était mon père qui était à côté de moi? Parce que mon père, c'est lui qui m'a enseigné tout de la religion. Maman m'a montré l'exemple, mais m'enseigner, c'était mon père. Et ici, dans ce camp, je n'avais que ça pour me soutenir. Donc, c'est mon père que j'ai vu. Et j'ai touché mon père qui était à côté de moi et qui m'a dit, Edith, elle m'appelait Edith, parce que je m'appelle en juif, elle m'a dit, Edith, tu dois rentrer à la maison parce que maman est malade. Tu dois absolument rentrer à la maison parce que maman est malade. Et tout ce qui te peut t'arriver en ce moment, ne te fais pas de soucis, Dieu va t'aider. Et à tel point, j'ai senti ça, que quand je me suis réveillé, j'ai tâté pour voir si mon père était à côté de moi. Et ça, ça m'a à tel point touché, que je me suis remonté le moral, et je me suis dit, si mon père me dit ça, c'est que certainement ça doit être comme ça. Je ne peux rien faire d'autre, je ne dois pas me laisser abattre, si ma mère est malade, je vais les revoir. Il faut que je surmonte ma douleur et que je passe par-dessus. Et ça, ça a été un remède pour moi. Je ne veux pas dire que j'ai plus pensé à l'enfant, mais je veux vous dire que 3 jours après, l'infirmière est venue me dire, sors tout de suite de cet hôpital, il y a une énorme sélection. Tous ceux qui vont rester là-dedans n'en ont plus que pour 24 heures. Comme tu es, tu sors. Donc, j'avais d'autres soucis. Et il fallait que je sauve ma vie. 3 jours après, tel que j'étais, j'ai pris mes pénates et je suis revenu dans le bloc et j'ai recommencé à travailler.